Bien, vous aurez tous reconnu ce hit mondial, la bourrée auvergnate, hein, qui effectivement porte ces paroles qui nous font chaud au cœur, vive l'Auvergne, vive les Auvergnats. Alors, il y a quelques années, il y avait eu un sondage qui avait été fait sur les noms de régions les plus connus dans le monde, noms de régions françaises, cela va de soi. Eh bien, l'Auvergne était deuxième derrière la Normandie, parce que les Américains connaissent beaucoup la Normandie. Ils y vont beaucoup et comme ils pèsent très très lourd en termes de, je dirais, de tourisme, eh bien, l'Auvergne était simplement la deuxième région la plus connue au monde. Et l'Auvergne existe toujours, nonobstant effectivement la fusion des régions. Cette région est désormais une marque depuis plusieurs années maintenant. Et c'est la démarche de la marque Auvergne. Alors, on va travailler sur cette dernière heure de la matinée. On va entendre ceux qui portent collectivement cette marque, les quatre départements d'Auvergne. Alors, tout de suite, je vous prie d'excuser l'absence de la Haute-Loire, Marie-Agnès Petit n'ayant pu se libérer pour participer à cette séquence. Mais il s'agit bien d'une démarche comportée par les quatre départements d'Auvergne, à savoir l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Et qui est présidé non pas par un élu, mais par un chef d'entreprise, en l'occurrence, qui lui-même porte des marques et porte des volontés autour du vin, mais on y reviendra. Donc, je vais demander tout de suite aux intervenants de la table ronde de me rejoindre, en l'occurrence, Pierre Desprat, Bruno Faure, Christian Chiteau, Michel Sauvade, si vous voulez bien me rejoindre au plateau. Et Francis Huneau également, qui est le président de l'association Notre Village, Notre Avenir. Et puis, je vais demander à Philippe Persson et Pierre-Jean Mativet de bien vouloir s'installer ici pour apporter des précisions et des compléments à tout ce que nous serons en mesure de partager. Voilà, installez-vous, Francis. Comment ça va ressembler au début d'une équipe de rugby, là. Merci, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, Pierre Desprat, parce que vous êtes tout nouvellement président de cette marque Auvergne. Votre prédécesseur était Nicolas Nuget, et je crois que c'est fin juin que l'ensemble des acteurs coporteurs de cette marque vous ont élu. Alors, je compte sur vous pour nous redire quelles sont au départ les ambitions de la marque Auvergne et puis quelles sont les ambitions que vous assignez et que ceux qui vous ont élus vous ont confiées. Alors, on vous a fait le piège de vous l'éteindre ?
Un, deux.
Eh bien, ça marche.
Merci. Alors, président nouvellement élu, vous l'avez dit, c'est mon baptême du feu. En tant que président de la marque Auvergne, aujourd'hui, je suis très heureux et fier de le faire à Aurillac. Alors, la marque Auvergne, une très belle histoire, il y a 7 ans, les nouvelles régions, et la volonté d'un homme, d'un président, Laurent Wauquiez, qui a souhaité donner cette opportunité aux Auvergnats de garder cette signature, cette marque, cette fierté qu'on a tous d'être Auvergnat. Cette volonté, elle s'est inscrite d'abord les 2 premières années, paradoxalement, à convaincre les Auvergnats de l'utilité et de la chance qu'ils avaient de pouvoir conserver cette marque. Alors, Sébastien, vous avez dit tout à l'heure que dans des sondages, la deuxième marque la plus citée, c'était l'Auvergne derrière la Normandie. L'Auvergne, il faut juste savoir qu'en termes de commercial, c'est la 3e marque la plus aimée des Français. La première étant les Bretons, la 2e étant la Corse, et la 3e étant l'Auvergne. Donc, c'est quand même très important. Donc, on est tous très fiers de porter cette marque Auvergne. Alors, en toute objectivité, bien sûr, elle est inscrite sur des autocollants. Voilà. Et nous sommes très fiers d'appartenir à cette Auvergne. Ensuite, l'utilité de cette marque, c'est le travail. Travailler sur ce sentiment d'appartenance, travailler également, et c'est important, au service des entreprises. La marque Auvergne aujourd'hui, c'est 450 grosso modo entreprises adhérents, 450 entreprises, et la défense des 4 territoires d'une façon équitable, que ce soit l'Allier, que ce soit la Haute-Loire, que ce soit le Puy-de-Dôme et que ce soit le Cantal. Il est important que cette marque, et dont je préside cette destinée pendant 2 ans, soit équitable aux 4 territoires. Il n'y a absolument pas, pour moi, c'est un vrai engagement que j'ai eu sur mon premier discours, c'était l'engagement d'être totalement équitable sur ces 4 territoires. La deuxième chose, c'est que nous avons vécu 2 années un peu instables avec le Covid, et là aussi, la marque a prouvé son adaptabilité, son adaptabilité à la situation, puisque nous avons créé l'Auvergne Recrute, qui est une plateforme de recrutement. Et vous savez tous, et en tant que chef d'entreprise, on est tous confrontés à ce plein emploi, donc à des problématiques de recrutement. Et donc, on a créé cette plateforme qui s'appuie bien sûr sur la plateforme régionale, l'Auvergne Recrute. Également, les entreprises, nos adhérents nous ont remonté en disant, aujourd'hui, on a des problématiques économiques avec le confinement, etc. Comment vont sortir grandies nos entreprises de cette situation? On a créé une plateforme d'achat qui s'appelle aujourd'hui Acheter en Auvergne, et qui est une plateforme qui travaille excessivement bien, qui se développe vitesse grand V aujourd'hui, puisqu'elle représente 150 entreprises, 5000 produits, un chiffre d'affaires qui avoisine entre 100 et 120 000 euros. Donc, on a apporté là aussi une réponse très rapide aux entreprises. Et c'est l'agilité de cette marque. Donc, faire rayonner la marque Auvergne. Et puis, l'ambition, en tout cas pour les prochaines années, c'est porter cette marque à l'extérieur peut-être de nos frontières, puisqu'on est en train de construire aujourd'hui une opération qui aura lieu au Parlement européen de connaissance, de lobbying certainement, c'est-à-dire qu'on va là aussi porter cette appartenance et cette fierté au Parlement européen. On est en train de réfléchir également à certainement faire d'ici 1 an ou 2 une opération peut-être en Angleterre pour courtiser nos Auvergnats anglais et les Anglais en règle générale également, et leur porter ce dynamisme de l'Auvergne. Voilà, en tout cas, vous l'aurez compris. N'attendez de moi aucune objectivité dans l'amour de l'Auvergne et qu'on porte. Mais une chose est sûre, c'est que je suis très, très fier, en tout cas, de porter cette marque. Je ne peux que saluer l'engagement d'un président à un moment d'avoir souhaité porter et continuer à développer cette valeur qu'est la marque.
Conserver ce capital et le faire fructifier. Capital, voilà. Alors, Président, dans votre feuille de route, quelle est la place du numérique, des réseaux sociaux? Vous parlez effectivement de rayonnement international. Est-ce que jusqu'à présent, la marque Auvergne embarquait beaucoup d'activités sur les réseaux? Est-ce qu'elle en embarquera plus demain?
Oui, d'abord, elle est excessivement présente sur les réseaux. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment important. N'oublions pas que la marque Auvergne aujourd'hui fonctionne avec 2,2 temps plein, équivalent temps plein. Donc, évidemment que nous avons nous souhaiterions aller encore plus vite et encore plus fort à ce niveau-là. Mais là, il va falloir qu'on se professionnalise. Je pense que la marque Auvergne a été victime aussi d'une croissance un peu exponentielle. Aujourd'hui, on est presque en train de raisonner un peu cette croissance. Et on va, bien sûr, l'Auvergne Recrute, par exemple, en est un excellent exemple de digitalisation, puisque aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne et qui est au service de nos adhérents et des entreprises. Et ça fonctionne vraiment très bien.
Merci Pierre Desprats. Bruno Faure, on l'a compris, effectivement, la marque Auvergne, ce sont des collectivités, mais aussi énormément d'entreprises, hein, ce sont des acteurs économiques. Mais sur le volet politique, alors vous êtes aussi conseiller régional délégué à l'Auvergne, donc avec un attachement, j'imagine, au moins égal à celui de Pierre Desprats. Mais sur le plan du département, le Cantal, comment s'articulent effectivement les marques que vous portez? On pense à l'Allier, on pense au Puy-de-Dôme. Comment ça s'est mis dans la même marmite, et comment chacun trouve sa place, et comment le Cantal, lui, trouve sa place?
Je crois que à l'origine, effectivement, pour reprendre ce que disait Pierre, la volonté, c'était au moment de la fusion, au moment de la fusion des régions, puisque au préalable, on travaillait à différents niveaux, notamment au niveau touristique, au niveau du CRDT Auvergne. Et donc là, on avait un risque, on a tout de suite senti le risque, effectivement, de pouvoir disparaître, être rayé de la carte et d'être fusionné dans cette grande région, parce que les poids économiques ne sont pas du tout, ne sont pas du tout les mêmes.
Les mêmes.
voilà, et donc là, c'est vrai que le président Wauquiez avait dit, bon voilà, je vous propose de vous fédérer, de vous organiser, effectivement, pour faire vivre l'Auvergne. Donc, il fallait développer ce sentiment de fierté et d'appartenance à l'Auvergne. Donc ça s'est traduit par différents points. Déjà, au sein de l'association, il y a toutes les collectivités, les grandes collectivités qui adhèrent, c'est-à-dire les quatre départements, mais toutes les métropoles auvergnates sont adhérentes de la marque.
Les métropoles aussi.
Il y a le volet chef d'entreprise, et puis il y a également tout ce qui est associatif. Et que ce soit du culturel, que ce soit du sportif, véritablement, tout le monde se retrouve au sein de cette marque. Alors, bien évidemment, ensuite, il a fallu que l'on essaie de se dire comment s'intégrer dans celle-ci, puisqu'on avait tous des démarches. Et au niveau des élus, ça a été relativement simple de se retrouver au sein de cette marque, tout simplement parce qu'il a le volet économique et on sait que l'économie, bien évidemment, c'est le poumon de nos territoires. Donc, on a embrassé cette marque relativement facilement et on essaie de faire la même démarche au niveau touristique, puisqu'au niveau touristique, on est sur destination Auvergne. Voilà, donc le mot de l'Auvergne est toujours largement présent. J'allais dire pour le Cantal, ça a été d'autant plus facile, d'autant plus aisé que nous sommes sur une marque territoriale qui date d'une quinzaine d'années maintenant, qui est Cantal-Auvergne.
Cantal-Auvergne,
c'est quand
absolument.
Même très simple. On se dit, il faut être simple pour être visible et entendu. Il faut que les gens arrivent à se positionner. Donc, quant à l'Auvergne, marque Auvergne, destination Auvergne, Auvergne destination, j'allais dire qu'on s'est fondu complètement effectivement dedans. Encore fallait-il qu'au niveau local, au niveau départemental, on puisse faire valider effectivement que, j'allais dire, notre marque territoriale, quant à l'Auvergne, puisse se décliner à une échelle plus grande avec l'ensemble des prestataires, l'ensemble des entreprises, mais ça a été fait de manière relativement simple.
Alors, on sait que les Cantaliens sont partout dans le monde. Il y a une diaspora qui est assez impressionnante. Aujourd'hui, est-ce qu'avec les réseaux sociaux, avec les réseaux numériques, est-ce qu'on arrive à mobiliser un certain nombre des membres de cette diaspora internationale pour contribuer à exprimer l'amour qu'ils ont pour le Cantal et pour l'Auvergne ?
Ça, je crois que c'est l'essence même de cette démarche de la marque Auvergne, hein, c'est l'identité, renforcer l'identité, la fierté, et puis, j'allais dire, le collectif. Venez dans cette grande famille. Tout à l'heure, je disais qu'on était du politique, toute sensibilité confondue, le monde économique, culturel et sportif, et bien évidemment, j'allais dire, tous les ambassadeurs que l'on peut trouver au niveau mondial et pour les Auvergnats, bien au-delà. C'est.
Effectivement, au-delà. Ça se traduit comment ? Parce que je crois qu'il y a un compte Twitter, Marc, enfin Auvergne. Je crois qu'il y a une page Facebook. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des estimations, enfin des chiffres par rapport à la fréquentation de cette page ou est-ce que c'est un peu mouvant ?
Oui, tout à fait. Les réseaux, on est sur Instagram, on est sur Facebook, etc. Instagram, aujourd'hui, on est un peu plus de 10 000
followers, on va dire.
Followers. Voilà. Ensuite, on travaille également avec Facebook, peut-être pas là où on est le plus fort, et ouais. Énormément LinkedIn.
Ah oui ?
Voilà, énormément. C'est un vrai travail. C'est quelque chose d'énergivore. Voilà. Et encore une fois, on fait avec les 2,2 temps plein.
Oui.
Voilà, que nous avons et on essaye de faire le mieux possible. Voilà. Juste pour le réseau, les réseaux, on entretient un réseau qui s'appelle l'Auvergne Business Club, oui. Voilà, à Paris, qui est un réseau qui regroupe tous les Auvergnats qui ont de près de loin. sont sur des médias nationaux, sont des artistes, des personnalités.
Des entrepreneurs.
Et on entretient énormément ce réseau-là, grâce également à le virgule 2, puisqu'on a deux temps pleins et je disais 2,2 équivalents. Donc, on a une virgule 2 qui est François-Xavier Montil, qui a à charge d'entretenir tous ces réseaux-là et qui le fait magnifiquement bien. Et ça nous sert. C'est encore une fois pas pour rien que je crois qu'on est une vingtaine, une trentaine de passages sur TF1, sur le journal de 13 heures. On voit sur certains sujets. Et donc, on entretient avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour ces Auvergnats parisiens.
Et donc ça, c'est grâce à ce lobbying, en fait, à chaque fois que TF1 parle de ruralité, il vient dans le Cantal, en fait. Vous êtes l'étalon ruralité.
Voilà, ce que je voulais dire aussi, une des particularités pour ce sentiment d'appartenance au niveau régional, on a une présidence qui est tournante.
Oui.
Une présidence qui est exclusivement assurée par un chef d'entreprise. Là aussi, c'était une volonté de départ du président de région, c'était que celle-ci puisse tourner sur l'ensemble des départements, parce que du réseautage, on en a tous dans nos départements, mais c'est l'addition de ceci qui fait effectivement la puissance de la marque. Donc, c'est un fait marquant et donc elle est tournante tous les 2 ans.
Merci, merci beaucoup. Christian Chitot, on a vu avec Bruno Faure que c'était assez facile pour lui, quant à l'Auvergne, de se fondre dans l'Auvergne. Pour l'Allier, ça n'a pas toujours été si simple, puisque effectivement, les Bourbonnais maintenant. Aujourd'hui, on ne dit plus les habitants de l'Allier, mais il y a toujours eu, on le sait historiquement, cette difficulté à se sentir pleinement auvergnat. Est-ce qu'avec les Bourbonnais, finalement, l'Allier a trouvé son style et au sein de l'Auvergne ?
Oui, ben justement, vous avez posé la bonne introduction. L'Allier, c'est quoi ? C'est un département. Alors, si je pose la question à l'Assemblée, quelle est la préfecture de l'Allier ? Il n'y a pas une réponse massive. Donc,
je l'ai entendu. Oui, il y a peut-être un Bourbonnais dans la salle.
Donc, ça veut dire, pour parodier Sébastien, c'est un détail pour vous, mais c'est important. Hein, c'est important. Et donc, l'Allier part déjà de ce constat-là. Et il lui faut, en étant au centre de la France, c'est-à-dire près de tout, mais loin de tout, il lui faut améliorer ses infrastructures de transport et numérique. C'est ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas seulement un département qui, lui, a des richesses patrimoniales, qui a des richesses naturelles. Il est aussi innovant, il a aussi des entreprises. Mais ce territoire d'histoire, alors vous le savez tous, les Bourbons ont habité beaucoup l'Allier et donc on dit qu'il y a un château tous les kilomètres dans le département de l'Allier. Et donc c'est vrai que ce patrimoine architectural, c'est une base de réflexion au départ. La deuxième base de réflexion pour l'Allier, c'était l'eau. Il y a 4000 kilomètres de cours d'eau dans le département de l'Allier, c'est énorme, 4000 kilomètres. Donc ces 4000 kilomètres, alors évidemment l'eau en ce moment elle est rare, donc il y a des milliers de plans d'eau et donc ça c'est le deuxième atout. Donc, le patrimoine naturel, d'une manière globale, c'est l'Allier est constitué de fleuves, de gorges, de petites rivières. Et donc, il y a au milieu de tout ça de nombreuses pépites. Il y a de nombreux chemins, de nombreuses haies, des champs, des bois, des petites communes. Et tout ça, ça a été façonné par l'homme, par l'agriculture. Et c'est un territoire, un paysage qui aujourd'hui est apprécié par les urbains et qui a l'air de commencer à produire ses fruits. Alors, c'est pas le tout, on a ça, d'accord, mais comment avoir une démarche marketing territoriale bourbonnaise dans ce département ? Eh bien, on a commencé par dire on va créer une agence d'attractivité. On va regrouper les gens sous un bastion, l'agence d'attractivité. Et le but de cette agence, c'est de donner une image de l'Allier qui va essayer de renforcer sa notoriété, sa fierté d'appartenance, on en a parlé tout à l'heure, et cette envie d'allier qui est peu présente et qu'il faut absolument qu'on développe. Donc, en relation avec la marque Auvergne, bien sûr, une marque territoriale, Allier Bourbonnais d'azur et d'or, a été mise en promotion. Et alors, pourquoi tout ça ? L'azur et d'or, c'est quoi ? Vous le savez, l'azur, c'est l'eau. Et les pépites naturelles et patrimoniales, c'est l'or. Hein, au-delà des Bourbons, bien sûr, il y a autre chose que les châteaux des Bourbons. Alors, vous allez me dire, et le numérique dans tout ça ? Eh bien, le numérique, il est là. Et aujourd'hui, dans le département de l'Allier, pas un seul projet ne se développe sans que la phase numérique du projet soit réfléchie, étudiée, élaborée. Parce qu'aujourd'hui, il est évident que dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, le domaine culturel, le domaine touristique, le numérique doit être présent et la domotique est un aspect incontournable dans l'élaboration des projets. Donc, pourquoi ? Bah parce que ça facilite après l'usage des services, la maintenance, les coûts d'exploitation, etc. Donc, voilà, je l'ai écrit hein, pour ne pas oublier de choses. Donc, pas un bâtiment, pas un espace public n'est imaginé sans cette digitalisation et donc cette ultra-connectivité. Alors, il y a une richesse qui en découle, c'est la donnée intelligente. Et la donnée intelligente, elle ne court pas les rues. Hein. On a de la donnée avec Google, on a de la donnée avec pas mal de grandes sociétés. Mais la donnée intelligente accessible partout et pour tous, c'est un atout d'attractivité, c'est un rééquilibrage en faveur des territoires ruraux. Et donc, cette donnée aujourd'hui, elle est en silo. Hein. Vous avez des services qui ont une donnée, des services qui ont une autre donnée, des gens qui ont une autre donnée. Il faut arriver cette donnée à la maîtriser. Et ça, c'est un projet énorme que l'on a dans le département de l'Allier, d'utiliser un cloud. Alors, je m'excuse, hein, c'est un cloud départemental, mais on sait bien qu'il ne sera pas vraiment départemental parce qu'on n'est pas assez puissant pour développer un cloud tout seul, mais un cloud dont le département est un grand initiateur qui facilitera l'exploitation de cette donnée avec des ordinateurs interconnectés, notamment dans les collèges. Alors, la donnée, ben, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais j'en ai encore 2-3 minutes.
7 minutes comme les copains, voilà. 2-3 minutes, c'est bien.
Voilà, la donnée va avec le télétravail, vous le savez, le télétravail, tout le monde en parle, ça réduit les distances, ça réduit le temps. Et aujourd'hui, travailler en dehors des villes, ben, grâce à ce télétravail, c'est possible. Donc, aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi ? Parce que je fais partie d'un organisme dont je suis fier, et le président est à côté de moi, c'est la régie Auvergne Numérique qui développe la fibre dans les 4 départements d'Auvergne, et on accélère, on arrive à la phase 4, et on pense qu'on va arriver à 100%, c'est un rêve, mais un gros pourcentage d'Auvergnats et donc d'habitants de l'Allier connectés. Dans l'Allier, ben, il n'y a pas de métropole, hein, il n'y a que des petites agglos, et donc les services, ben, ils sont essaimés partout, dans une ruralité qui est prédominante. Et qu'est-ce qu'on essaime dans cette ruralité ? Ben, les maisons France Service, on en a parlé, les tiers-lieux numériques, les cabines de télémédecine, on en a une 40aine de prévues dans le département d'Allier, des valises connectées qui équipent les sapeurs-pompiers, je vous en dirai plus si on avait le temps. Et on a mis expérimentalement des choses. Alors, on a mis, par exemple, des choses qui semblent anachroniques. On a mis un véhicule électrique autonome sans chauffeur sur une voie verte. Entre Montluçon et Néry. Néry, qui est une station thermale, et Montluçon, qui est une petite aglo.
Et ça s'est fini comment ?
Eh bien, ça y est, elle est là, elle existe, elle existe, elle est toujours en expérimentation, parce que c'est avec l'Université Clermont-Auvergne qui fait ça, puis des grands partenaires comme l'IG et Michelin.
Oui.
Mais cette navette, elle peut contenir 8 à 10 personnes, elle roule à moins de 30 km/h, bien sûr, elle s'arrête au moins d'obstacles et elle repart derrière, mais on se dit aujourd'hui, le déplacement, bah, il exige de nombreux capteurs, des caméras, bien sûr, du giga, il en faut un paquet. Donc, la 4G, c'est important, la 5G demain, encore plus. Et donc, c'est là où c'est service, là où c'est possible, les modes de déplacement doux, en voilà un. Quand on dit on utilise du vélo taf ou du vélo tourisme ou de la trottinette, ben oui, c'est bien, sauf qu'il faut gérer ça, il faut des plateformes pour arriver à les maîtriser, à les coordonner, etc. Donc, on a mis ça en place dans le département de l'Allier. On a mis aussi une bourbonnette. Alors, vous voyez le raccourci, bourbonnette. Hein. Donc, c'est un bus numérique qui sillonne les petites communes des départements de l'Allier. Et l'inclusion numérique, c'est son but. À bord, il y a un chauffeur technicien et il y a une spécialiste des questions sociales. Et donc, ils se mettent en relation avec les gens qui sont demandeurs et on les met derrière, bien sûr, avec la maison de service public de plus près. Et il y a aussi le plan C carré, alors C carré, ça veut dire collège connecté. Et collège connecté, ben justement, pour faire quoi ? Et je vais donner un exemple des collèges connectés, faire ce que l'on appelle les classes hybrides. Vous savez, avec le Covid, il y a eu beaucoup d'élèves qui étaient malades, séparés, isolés, etc. Aujourd'hui, avec une classe hybride, bah, l'élève, il aura l'ordinateur, son Chromebook chez lui, et il pourra suivre la classe en permanence. Et puis, en même temps, ça permet de proposer des options que certains petits collèges ne pourraient pas proposer, comme par exemple, je ne sais pas, moi, je dis au hasard, l'allemand, l'espagnol, et donc, il n'y a pas assez de sections, et à ce moment-là, on pourra le proposer grâce à ces classes hybrides. Et enfin, deux derniers exemples, qui sont des exemples spectaculaires. On a développé dans le département de l'Allier le mapping vidéo. Hein, alors en français, ça veut dire des spectacles de fresques lumineuses en 3D sur les murs du patrimoine architectural. Tout ça, bien sûr, pour faire un spectacle, mais aussi pour raconter l'histoire de l'Allier, pour montrer les atouts, les savoir-faire artisanaux, industriels, parce qu'il y a du son, hein, bien sûr, hein, etc., etc. Et presque tous les soirs de l'été, à 8 endroits différents du département, il y a une représentation de 20 minutes en 3D. Et enfin, la dernière innovation, qui n'est pas la moins originale, on a organisé cette année un festival de drones lumineux. Et donc, dans 8 lieux ruraux, avec de préférence une étendue d'eau, hein, pour avoir des reflets, etc. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ces drones, il y en a 200 par la manifestation, ils sont programmés au centimètre près. Et la nuit tombée, ils donnent des images lumineuses animées avec un scénario adapté à l'endroit où on se trouve. Et donc, ça évoque là aussi les caractéristiques, les atouts du département. Donc, vous voyez, on est preneur d'innovation. Et bien sûr, en 6 minutes, je ne peux pas vous dire tout le reste, mais je répondrai à des questions s'il y en a.
Merci, merci Christian Chiteau. On le voit, effectivement, l'Allier trouve son style finalement, entre son histoire, son patrimoine, cette nouvelle appellation et puis les nouvelles technologies qui sont au cœur de sa stratégie d'attractivité. Et tout ça dans la capsule de la marque Auvergne, c'est une nouvelle pépite hein, finalement dans ce collier, une nouvelle perle. Un autre territoire qui avait un problème d'identité aussi il y a quelques années, puisqu'il n'avait pas de gentilé et que les habitants du Puy-de-Dôme sont devenus des Puy-de-Dômois. Comment Michel Sauvade, le Puy-de-Dôme, joue sa partition? On se souvient de l'aventure du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de la chaîne des Puys. Voilà, comment aujourd'hui le Puy-de-Dôme joue sa partition au sein de cette marque Auvergne?
Tout à fait. Alors, tout d'abord, je souhaite vous adresser à la fois les excuses et les salutations auvergnates et puy-dômoises du président Lionel Chauvin, qui je représente aujourd'hui. Et peut-être, tu parlais de l'UNESCO à l'instant, Sébastien, sans qu'on se soit concerté, c'était le point d'entrée, les éléments de contexte qui permettent de comprendre ce qui récemment a évolué dans l'image et dans l'attractivité puy-dômoise. Vous savez que Puy-Dôme est dans une période de renouvellement de son exécutif. Pour autant, il s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait précédemment, notamment autour du classement de la chaîne des Puys, faille de Limagne, au titre de l'UNESCO. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en termes d'attractivité, à travers ce classement, on a très, très quantitativement le point de départ de cette nouvelle attractivité. Sans rentrer dans le détail, concrètement, c'est une augmentation de 19% de la fréquentation touristique sur les éléments dont on peut disposer aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui,
c'est clair,
physiquement est quantifiable. J'en profite justement pour saluer la volonté partagée par l'immense majorité de l'Assemblée dans les mandats précédents d'accompagner le président Goodbel et l'exécutif d'alors dans une démarche qui était une démarche longue, difficile et qui aujourd'hui eh bien, a des conséquences tout à fait positives sur le terrain dont nous sommes, nous, exécutifs d'aujourd'hui, les principaux bénéficiaires. Il faut savoir rendre à César quelque part.
Sachant que dans cette histoire, effectivement, cette candidature impliquait une forte mobilisation de la population et elle s'est faite énormément sur les réseaux sociaux.
Alors, il y a eu cette dimension touristique. Je viens de dire rendre à César ce qui est à César dans un département qui abrite Gergovie, c'est peut-être pas l'expression la plus adaptée. On va rendre à Vercingétorix ce qui est à Vercingétorix. Pour venir sur la présence numérique, cette présence numérique, elle a été marquée, elle aussi, par cette inscription au classement. Et sans être en capacité aujourd'hui de vous communiquer des statistiques très, très précises sur la question, je peux dire que les mots-clés autour du volcanisme sont centraux dans cet espace. Et peut-être qu'après tout, les difficultés de l'Allier à s'intégrer, c'est que, contrairement au Cantal et à l'Haute-Loire, cette présence des volcans est moins marquée sur ce département. Toujours est-il que ces mots-clés autour du volcanisme sont associés aux mots-clés autour de l'Auvergne. Et quelque part, dans l'esprit des gens qui viennent nous voir sur l'Internet, eh bien, il y a cette association entre les deux dans une image valorisée par le classement au patrimoine. Alors, ça a deux conséquences pour nous dans l'élaboration des politiques de communication. La première de ces conséquences, c'est qu'au-delà du phare, en quelque sorte, du classement de l'UNESCO et du Puy-de-Dôme, le volcan, nous avons l'obligation de trouver un équilibre avec l'ensemble des territoires puy-dômois qui ont de multiples richesses, qui peuvent relever du volcanisme, mais qui relèvent aussi d'autres caractéristiques de ce territoire et d'autres éléments d'attractivité comme le tourisme vert. Enfin, on peut multiplier les exemples. Donc, on a un premier enjeu et un premier objectif à atteindre. Le second objectif auquel le président Chauvin et l'exécutif sont particulièrement assemblés, et au-delà toute l'Assemblée, c'est le fait que cette communication ne doit pas être une communication en trompe-l'œil et qu'elle doit véritablement traduire être traduite sur le terrain par des actions extrêmement concrètes. On a utilisé les uns et les autres, même si on n'est pas dans nos compétences, l'enjeu économique. L'enjeu économique, c'est un enjeu pour les départements au même titre que pour la région, évidemment. Et donc, cette communication, elle doit être à la fois facteur et révélateur d'une réalité du terrain. Inutile de mettre en avant le télétravail si la couverture numérique n'est pas satisfaisante. Faire venir des gens pour les amener dans une impasse professionnelle, ça n'est pas souhaitable, au même titre pour les usages et évidemment pour ce qui concerne l'inclusion numérique. Donc voilà le contexte dans lequel nous travaillons et dans lequel s'est élaboré un plan de mandat. Alors, la chronologie par rapport à Rogalitic est un petit peu mal conçue, puisque le président Chauvin, en réalité, va présenter et rendre public dans quelques semaines le plan de mandat qui a été élaboré pendant cette année. Donc, il n'est pas question pour moi de spoiler
on est bien d'accord.
Aujourd'hui, vous le comprendrez bien. Je dirais simplement, ou je retiendrai simplement trois points par rapport à ce plan de mandat. D'abord, et là, on est raccord dans le sujet, c'est que l'attractivité est un des éléments centraux de ce plan de mandat et est affirmé et sera affirmé comme tel à la fois dans les objectifs et à la fois dans la méthode et dans les moyens mis en œuvre. Alors, j'ai entendu Christian tout à l'heure et Bruno Faure tenait le même discours. Les modalités sont spécifiques à chaque département, agence d'attractivité pour l'Allier, par exemple. Nous avons la chance, au niveau du département, de disposer d'une agence départementale d'ingénierie territoriale qui est particulièrement efficace vu du côté des élus. J'en profite pour saluer ici son directeur et saluer les services du département qui sont présents. Il est évident qu'il y aura, numériquement parlant et en termes d'attractivité, un rôle important de cette ADIT par rapport aux collectivités. Mais au-delà, et c'est l'objet de cette table ronde, cette démarche qui est en train de se mettre en œuvre dans le plan de mandat, elle doit être, et c'est vraiment une volonté très forte de notre part, un levier important, pour ne pas dire essentiel, du développement économique du département du Puy-de-Dôme, avec trois dimensions. Il faut que ce développement soit durable au sens environnemental du terme, mais au sens efficacité du terme, parce que la durabilité, c'est pas simplement
les petits oiseaux,
etc. C'est la capacité à être enraciné au sens propre du terme sur le terrain. Et vous savez qu'en Auvergne, on a les pieds sur terre et on est particulièrement enraciné. Il faut que ça soit mesurable et nous sommes attachés à une évaluation de ces politiques. Et enfin, et surtout quelque part, que ça soit perçu par les professionnels d'une manière générale. Et la marque Auvergne est un moyen finalement de réunir les uns et les autres, professionnels du tourisme, mais au-delà de tous les professionnels, afin de permettre en toute connaissance de cause, la venue de nouveaux habitants, pas simplement pour un séjour touristique qui peut être une première porte d'entrée. Et au-delà, tous les intervenants précédents ont parlé du mot de fierté, je le reprends à mon tour ici, il faut que cette démarche valorise aux yeux des Puy-de-Dôme eux-mêmes, qu'ils habitent dans le département du Puy-de-Dôme, qu'ils habitent en Auvergne ou qu'ils habitent dans le monde entier, eh bien, valorisent un sentiment d'appartenance très forte, à la fois appartenance puy-dômoise et à la fois auvergnate. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Pierre Desprats, on s'inscrit tout à fait à travers ce plan de mandat dans cette démarche qui est portée par la marque Auvergne. Pour conclure et revenir sur le numérique, eh bien, la feuille de route numérique qui est en train de se mettre en œuvre, elle aussi reprend ou décline ce plan de mandat à travers le développement des infrastructures, à travers le développement des usages et bien entendu de l'inclusion numérique. Comme le disait Christian Chiteau tout à l'heure, la valorisation de la donnée dans ce cadre est un enjeu essentiel afin de la rendre accessible et également de répondre aux besoins des Puy-de-Dômois et de ceux qui nous font l'honneur de venir dans notre département. Pour conclure, nous ne nous interdisons rien a priori. Il n'y a pas de blocage psychologique, d'enfermement dans un cadre prédéterminé dans cette réflexion-là. Cette réflexion est conduite et sera conduite avec nos partenaires et je salue Ruralitique à ce titre puisque c'est l'occasion d'échanger. J'ai eu la chance de le faire avec Bruno Faure hier assez longuement et puis avec Christian également. Ruralitique est un forum qui nous permet de nous rencontrer et de la confrontation des idées naissent de nouvelles idées. Hein.
C'est et de nouveaux projets.
C'est le cœur d'Internet et de nouveaux projets. Voilà ce que je voulais vous dire pour la spécificité auvergnate, mais qui, à vrai dire, n'en est pas une. C'est-à-dire qu'à travers le contexte local, la réalité qui a été décrite par tous les partenaires et amis précédents.
Merci beaucoup, Michel Sauvade. Je précise également que Clermont-Ferrand, Massif Central, candidate à la capitale européenne de la culture 2028, fait partie des 9 métropoles candidates, mais c'est tout le département du Puy-de-Dôme qui est embarqué et tout le Massif Central.
Ça a été évoqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du département du Puy-de-Dôme en oubliant ou en négligeant la métropole qui est pour nous localement un partenaire prioritaire.
Merci beaucoup. Francis Huneau, vous avez vu des territoires qui, tous respectivement, ont mis en avant à un moment donné la qualité de vie, la richesse de leur environnement, leur pépite. Vous présidez l'association Notre Village, Notre Avenir, où la valorisation de ce label, la valorisation des communes détentrices de ce label est très liée à leur stratégie de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et puis réagir à ce que vous avez entendu ce matin ?
Oui, alors je vais déjà corriger Notre Village, Terre d'Avenir.
Terre d'Avenir, autant pour moi.
Terre d'Avenir. Alors, oui, ce que j'ai retenu là de ce qui s'est dit, c'est tout ce qui concerne l'attractivité économique, l'attractivité touristique, donc, et pérenniser les départements, les régions, les villages. Hein, c'est surtout ça. Nous, notre association, elle s'est construite sur initialement une association qui s'appelait SOS Village. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Si.
On remonte à 1992. Et c'était un cri d'alarme qui avait été lancé par rapport à la désertification des campagnes. C'est-à-dire que finalement, ce qui a été évoqué dans les tables rondes précédentes, départ des ruraux vers l'urbain. Et là, on est dans un mouvement inverse, on veut revenir de l'urbain vers le rural. Et bien sûr, ce phénomène, il va être accompagné, on le dit, et ça a été prouvé, grâce au numérique. Hein, le télétravail en est un exemple, mais d'un autre côté, il faut faire face à d'autres besoins. Hein, on a évoqué ce matin le problème médical, le problème du suivi médical et de ce qui est hôpitaux, etc. Alors nous, notre association, elle s'est mutée de SOS Village en Notre Village avec la connotation Terre d'Avenir, parce qu'on s'est voulu beaucoup plus positif et on a voulu aussi accompagner l'ensemble des collectivités qui nous faisaient confiance, qui nous ont fait confiance, pour qu'on puisse les labelliser dans un agenda 21, puis maintenant un agenda 2030.
D'accord.
Hein, voilà. Et donc, on est dans cette dynamique de développement durable. Et quand j'ai lu la Ruralitique, le smart village,
c'est ça.
Durable, il faudrait rajouter maintenant durable.
Mais pour nous, le durable est dans le smart.
Mais oui, je crois que c'est important, ça, c'est important. Et donc, tout le monde connaît à peu près tout ce qui sous-tend l'agenda 21. Enfin, je peux le rappeler, hein, lutte contre le changement climatique, vous voyez, on est en plein dedans. Préservation de la biodiversité, on est aussi en plein dedans. Mais il y a aussi cohésion sociale et solidarité entre les générations et les territoires. on en a parlé, c'est des solidarités entre territoires, alors que ce soit entre des départements, au niveau des régions, etc. Épanouissement de tous les êtres humains. Et donc ça aussi, c'est un élément qui, ça a été évoqué ce matin, ça a été aussi évoqué par rapport à ce que l'on veut faire au niveau des territoires. Et dynamique de développement sur des modes de production et de consommation responsables. Donc là aussi, tout le monde est prêt à partir là-dedans. Donc ça, c'est le développement durable. C'est aussi simple que ça. Et nous, nous essayons de faire en sorte que les collectivités, donc communes, voire communautés de communes rurales, au départ, on était tourné vers la ruralité, mais on s'étend de plus en plus, hein, puisque nos adhérents, c'est de 50 habitants à 11 000 habitants. Vous voyez, on est obligé de ratisser plus large, puisqu'au départ, on s'était limité en taille, parce qu'on voulait vraiment toucher le rural, puis maintenant, on touche beaucoup plus. Et donc, on fait en sorte que d'accompagner les collectivités qui veulent mettre en place un plan d'action dans le cadre d'un agenda 21, et même enfin, ce qu'on appelle maintenant l'agenda 2030, puisque l'ONU a raccourci les délais, enfin, a fixé d'autres objectifs à l'horizon 2030. Hein. 21, ce n'était pas pour passer le 21e siècle, c'est pour un siècle, hein, c'est pour le 21e siècle en entier. D'accord. Et donc, on a évoqué des problématiques d'attractivité. Hein. L'attractivité, c'est si on veut lutter contre la désertification, eh bien, il faut faire en sorte que les urbains reviennent vers le rural, mais d'une façon, je dirais, ordonnée, hein, et avec les services qui vont avec. Et je pense que le numérique, en soi, c'est l'outil qui va permettre de faire revenir les urbains vers le rural. Hein, c'est ça. Parce qu'il faut faire vivre nos villages, il faut faire vivre nos écoles. Moi, j'étais maire d'une commune, on a mis le paquet sur l'école. On a mis le paquet sur l'école parce que ça nous paraît être le point le plus fondamental. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que nos enfants aient ce qu'il faut chez eux et les familles aussi. Hein. Donc, ça veut dire derrière des tas de services. Hein. Ça veut dire des services de cantine, ça veut dire du périscolaire, ça veut dire de l'extrascolaire, ça veut dire des tableaux numériques, ça veut dire plein de choses. Hein. L'école, c'est... Si là, certainement, il y a des élus et des maires, ils savent ce que c'est. Hein. Et donc, l'aspect développement durable vu sur le critère d'attractivité, ça passe par là. Ça passe par justement offrir ces services à ces urbains qui éventuellement reviendraient vers le rural. Voilà. Bon, alors je vais mettre en avant on a les 17 objectifs de développement durable hein, qui ont été fixés par l'ONU là aussi, et je vais mettre l'accent sur certains qui ont trait justement à tout ce qui concerne qui pourraient être concernés par le numérique: l'accès à la santé, l'éducation, hein, que ce soit l'éducation en élémentaire, en secondaire et puis après en supérieur. On a les aspects d'innovation et d'infrastructure. Donc là aussi, on a besoin de numérique pour cela. Et après, on a des aspects plus, je dirais, de gestion d'environnement, que ce soit les énergies renouvelables, hein, entre parenthèses. Et puis, on en a parlé aussi ce matin, je pense, à travers l'e-commerce, à travers tout ce qui est commerce de local, et de façon à le développer et de façon à ce que les habitants trouvent sur place ce dont ont besoin. Et dans des régions comme très rurales comme les nôtres, on trouve tout, hein, il faut se dire, en termes de nourriture, en termes de produits, hein, on trouve énormément de choses. Et donc, consommation responsable, ça aussi c'est un objectif, avoir une consommation responsable, c'est-à-dire se tourner non pas vers Amazon, hein, bien que le numérique le permet, mais se tourner vers nos producteurs locaux, hein, c'est surtout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. À ce niveau-là.
Merci.
J'espère que je n'ai pas été trop long.
Non, c'était parfait, et on voit que En fait, l'Auvergne coche toutes les cases. On a parlé d'acheter en Auvergne, on a parlé donc de circuit court, on a parlé effectivement d'aménité d'énergie renouvelable, on a parlé hier. Voilà, enfin, à un moment donné, effectivement, on entend avec Francis Huneau qu'un territoire attractif, c'est un territoire durable dans ce sens-là. Et les initiatives que vous avez décrites les uns et les autres montrent qu'ils sont plutôt raccords. Une incise peut-être ? Juste avant de donner la parole à Pierre-Jean Mathilet.
Très, très, très rapide, mais en entendant finalement les interventions des uns et des autres, moi je voudrais revenir sur le rôle spécifique des collectivités dans la partition de l'orchestre de la marque Auvergne, quelque part. On parle beaucoup de couverture en fibre, on dit on ne va pas y arriver complètement, on parle de couverture de téléphonie mobile. Moi j'aime beaucoup rappeler que ceux qui couvrent à 100% le territoire national, ce sont les communes de France.
C'est ça.
Et ce taux de couverture, il est quand même important, il faut l'avoir en tête de ce point de vue-là. Et au-delà, si on remonte sur l'échelle départementale, on a vocation à irriguer ce territoire. Un de mes deux voisins, mais j'en suis désolé, j'ai oublié lequel des deux, me disait hier que le département, c'était l'échelle des réseaux, que c'était les réseaux qui étaient de sa compétence. C'est peut-être toi, Bruno, qui le disait. Et c'est très juste, cette réflexion, qu'il s'agisse des réseaux routiers ou autres, et des réseaux numériques, bien entendu. Donc, je crois qu'on a un rôle à jouer. On n'est pas nécessairement les initiateurs ou les chefs de file, mais on se doit de donner les moyens, quelque part, à toutes les énergies qui se libèrent dans ce contexte.
Voilà ce que je voulais rajouter. Et créer les conditions, effectivement, de ces émergences. Merci. Merci, Michel Sauvade. Pierre-Jean Mathivet, je vais te confier la télécommande. Il suffit que tu vises. Tu vises Baptiste, tu vises la cible jaune. nous montrer concrètement aujourd'hui ce que le numérique peut apporter de plutôt spectaculaire en termes de valorisation d'un territoire. Alors, dans le champ touristique, mais aussi dans un milliard de champs, vous allez voir, en voyant ce que présente Pierre-Jean, ça va vous donner beaucoup d'idées.
Merci, bonjour. Donc, Pierre-Jean Mathivet, fondateur de la société Calkin. Petit aparté du coup sur la marque Auvergne. Savoir que ça s'appelait Auvergne Nouveau Monde et que voilà, on est adhérent de cette marque, parce qu'on est Clermont-Ferrand là depuis 2013, et même à l'époque on pouvait être adhérent à titre perso, donc on était en tant que particulier, on pouvait adhérer à cette marque là et c'était assez fort. Du coup je vais vous montrer donc par rapport à Calkin, nous on est sur cette logique, donc on a parlé du tourisme et du loisir, sur ce qu'on appelle le figital. On est dans le numérique, mais on vient d'une histoire du papier, parce que le tourisme aujourd'hui, c'est du papier, c'est des cartes, c'est des brochures, etc. Parce que c'est une rencontre physique, en fait, on l'oublie souvent. J'ai beaucoup aimé justement l'intervention qui disait que on peut pas mettre les, on va recréer des services justement liés au village. L'office du tourisme et le tourisme en est un. Et donc, nous, c'est vraiment les choses avec lesquelles on travaille. En 2021, l'IGN donc, a augmenté de 25% ses cartes papier par rapport à 2019. On ne parle pas de la crise, donc d'avant-crise. Le papier a gagné en part de marché sur le mobile, justement, sur cette partie tourisme, on va dire, de randonnée. Donc, c'est les cartes de randonnée IGN. Hein. Parce qu'à un moment donné, le mobile, il est personnel et il ne va pas répondre aux besoins en fait, d'une famille ensemble qui doit décider d'informations, d'un groupe, etc. Donc, il faut faire attention à ces différents médias par rapport à tout ça. Donc, nous, Calkin, voilà, on va vraiment être sur cette logique d'accueil. On parlait tout à l'heure de je fais venir des gens, j'attire des gens sur mon territoire. Une fois qu'ils sont là, je ne peux pas les mettre dans l'impasse. Je ne peux pas les trahir. Et Calkin, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire que finalement, quand on a fait cette promotion sur les réseaux sociaux, quand notre territoire est devenu Instagrammable et que les gens arrivent, il ne faut pas que je les trahisse non plus quand ils vont arriver dans l'office de tourisme avec des supports, etc. Et donc ça devient notre travail. Donc voilà une carte de l'île de la Réunion quand vous arrivez en office de tourisme. Et voilà notre carte de l'île de la Réunion avec nos outils de mise en place en office de tourisme. Imaginez-vous, et je vous inviterai sur le stand à côté à venir tester, on est sur une table tactile, on peut toucher, on peut échanger avec un agent d'accueil qui va nous montrer ce qu'on peut réaliser, etc. Par rapport à ça. Et pour faire écho pour tous les intervenants qui sont là, une initiative dans l'innovation numérique, justement, qui a vu le jour dans le Cantal, où voilà, nos premières expériences, premiers clients, et aujourd'hui, on équipe quasiment tout le département, toutes les communes du Cantal, grâce justement à cet investissement qui est fait sur cette idée du numérique. Ma slide passe pas très bien, mais voilà, dans l'idée justement de là où on a poussé encore plus le vice justement sur cette expérience Cantal, c'est qu'aujourd'hui, on va couvrir ces trois volets du tourisme qui sont le avant, le pendant et on va dire un petit peu l'après cette visite en office. L'avant avec justement de la réalité virtuelle, donc avec des casques ou sur des salons de promotion de territoire, etc. On peut faire vivre le territoire et ça, vous pourrez le tester également sur le stand du Cantal qui en fait la promotion. L'information dont je voulais dire, je vais informer les gens donc grâce à ces tables dans les offices de tourisme où je vais avoir des outils vraiment plus puissants aujourd'hui que ce que je peux avoir sur mon ancienne carte papier IGN ou prospectus. Et enfin guider, puisque l'idée, voilà, c'est avec l'application par exemple mobile Cantal Rando, où on a pu aller, je trouve mon information sur la table et je vais ensuite aller sur la partie terrain. Et voilà, je vais vous présenter deux, trois thématiques de visualisation, de valorisation donc, de différents territoires à partir de cette logique de la 3D qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, on s'attaque à la problématique des quatre saisons. Le tourisme va aller vers une problématique qu'on appelle le tourisme de quatre saisons parce que le télétravail va se faire en vacances sur des périodes effectivement off, parce que le slow tourisme est en train d'arriver. Et c'est une problématique en termes d'information qui va changer aussi un petit peu la donne dans les offices. On n'informe pas pareil sur une autre saison en été qu'en automne. On a beaucoup plus de visiteurs, on va dire locaux, qui vont rechercher des nouvelles informations, des nouvelles actions ou des nouveaux arrivants. On parlait justement de l'attractivité des gens qui vont arriver et qui vont chercher qu'est-ce que je peux faire une fois que je suis là. Et j'ai besoin, on va dire, de marquer les esprits à ce niveau-là. Donc, on a une offre qui va dans ce sens-là. Je ne sais pas si la vidéo va se lancer. Ça peut aller... on va attendre un petit peu sur la vidéo et je vous inviterai à venir voir d'autres exemples qu'on a pu réaliser. Ça va à la fois de la partie, vous l'avez vu, rurale, montagne. Donc là, on est sur Grenoble ou Jeune-Alpine. Ouais, on va mettre en avant sur des stations de ski, tout ce qui peut être hivernal, etc. On le fait également dans le milieu des métropoles. On a travaillé avec la cité gastronomique du vin de Dijon, justement sur la valorisation de la métropole de Dijon et toute l'attractivité qu'ils ont autour justement de la gastronomie et du vin sur ces modèles 3D. On va travailler sur les littoraux également, avec Arcachon, Cannes par exemple, sur les problématiques d'accès aux plages, de marées, de navettes fluviales, ou sur de la mobilité transfrontalière, par exemple avec Annemasse, où on parlait de données intelligentes tout à l'heure, c'est un peu cette idée-là. Aujourd'hui, en fait, dans le tourisme, mais même vous, on travaille avec le bocage bourbonnais aujourd'hui dans l'Allier, sur lesquels on a ces bases de données intelligentes qui discutent ensemble. La donnée touristique, la donnée de transport. Et donc, par exemple, avec Admas, c'est le cas aujourd'hui, on a une donnée tourisme et transport qui va jusqu'à Genève sur des collaborations transfrontalières, justement, sur ces modèles. Donc, en fait, on peut imaginer cette valorisation de terrain comme juste le socle, en fait, de ce mix d'informations et de données où tout le monde peut déverser dedans et dire ça, c'est mon outil commun, justement, certes à l'office, mais à tous les services, en fait, et d'attractivité de tourisme que vous avez sur un territoire. Et je vous invite à venir voir plein d'autres exemples du coup sur notre stand. Merci.
Et cette manière de faire vivre les données de manière extrêmement visuelle, c'est vraiment le cœur du processus de valorisation d'un territoire grâce au numérique. Alors, Philippe Persson, vous êtes responsable du pôle tourisme, culture, patrimoine. C'est pas anodin d'avoir associé tourisme, culture et patrimoine à la Caisse des dépôts. Le gouvernement vous a confié au moment de la crise sanitaire, une mission autour du tourisme et de la promotion de la destination France, parce que même si on est la première destination touristique au monde, on ne va peut-être pas s'endormir sur nos lauriers. La question, c'est aujourd'hui, quel est le rôle que vous pourriez assigner au numérique par rapport à l'offre touristique France et puis réagir librement à ce qui vous avait été proposé.
Eh bien, merci. Réagir librement, bien sûr, avec, on va dire, notre chapeau, ou en tout cas le chapeau que je représente ici, c'est-à-dire la direction de l'investissement de la Caisse des dépôts, On a plusieurs types d'actions, bien sûr, à la Caisse des dépôts. Nous, en tant qu'investisseurs, on contribue directement à ce qui a été dit aujourd'hui. Et par exemple, nous sommes investisseurs dans Happy Day, que beaucoup de gens connaissent ici, puisque Happy Day, c'est la première société coopérative qui gère, qui valorise, qui organise les données touristiques.
Les données touristiques.
Un exemple de ce qu'on fait très concrètement. Là, ça a été rappelé plusieurs fois. La donnée, c'est vraiment la data, c'est un peu la même chose. C'est vraiment la matière première du e-tourisme. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre comment on peut associer intelligemment le e-tourisme et les marques de destination. Et là, je me permets de me rappeler quelques évidences, mais qui, à mon avis, sont importantes à avoir en tête. Parce que gérer une marque, les personnes autour de la table le savent, c'est quelque chose de très complexe. Très complexe parce que ça allie différentes natures. Une marque, c'est une marque qui va prendre des outils du monde commercial pour les adapter au monde territorial. Et ces outils commerciaux sont en général des outils d'individualisation et de, on va dire, de concurrence. À l'inverse, une marque territoriale, c'est avant tout une marque de fédération d'acteurs qui va travailler sur l'attractivité, qui va essayer de faire travailler ensemble des mondes qui ne sont pas toujours les mêmes, qui peuvent être contraires. Alors pour ne fâcher personne, j'avais pensé à quelques exemples, mais de toute façon, on en a parlé ici. L'Allier, les Bourbonnais, le Cantal, l'Auvergne, on en a parlé. Je m'étais dit qu'on pouvait évoquer le Pays Basque et le Béarn, par exemple. Mmh. L'Agence de développement touristique allie ces deux territoires, alors que ces deux territoires n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même nature. Quand on regarde le site touristique de la ville de Biarritz, Biarritz se dit l'incontournable. Quand on regarde Bayonne, Bayonne se dit fête, gastronomie, patrimoine. Donc rien qu'avec ces petites illustrations, on voit toute la complexité de cette gestion. Donc, nous, ce qu'on a comme rôle principal, c'est d'accompagner les territoires et d'investir dans des sociétés qui vont servir soit directement les territoires, soit indirectement leur écosystème, leurs partenaires, les sociopros et tout ce qui va avec tout ça. Donc, ma réflexion principale serait de remettre un petit peu quelques évidences en avant sur l'interaction entre les marques et le e-tourisme. Le e-tourisme, communément, c'est ce qui fait référence à 5 segmentations du temps du voyage. L'inspiration, la préparation, la réservation, le vivre sur place et le rendre compte. Et on voit bien tout de suite avec ça qu'une marque territoriale qui va se vouloir vecteur de développement touristique va principalement être positionnée sur le temps de l'inspiration et de la préparation. Et l'inspiration, c'est un grand nombre de choses. Alors, Monsieur Dupuy-de-Dôme, vous l'avez dit, c'est avant tout ne pas avoir peur de ses atouts, ne pas avoir peur de ce qui fait le rayonnement d'un territoire. Les volcans, l'Auvergne, le Puy-de-Dôme, c'est un très bonne illustration de ces choses-là. Et évidemment, on voit bien que le patrimoine, le label UNESCO fait augmenter cette attractivité qui souligne le patrimoine. Mais on peut parler de gastronomie, on peut parler de festivals, d'événementiels, on peut parler de sport. Et tous ces éléments-là sont à même d'augmenter l'attractivité des territoires. Donc, ma réflexion première, c'est de se dire, n'ayez pas peur en tant que gestionnaire de marque, en tant que responsable et représentant de territoire, n'ayez pas peur d'être discriminant, de mettre en avant vos atouts, d'aller assez fort sur ce temps de l'inspiration et donc de la production de contenu, donc pas uniquement de données, mais de contenu qui vont valoriser et qui vont augmenter le poids de ce temps de l'inspiration. Et pour finir, on sait tous que sur les réseaux sociaux, mais on ne parle pas forcément que de TikTok, hein. On peut parler de Facebook, on peut parler de réseaux plus classiques, on peut parler de contenu échangé en one-to-one. La vidéo de qualité en numérique, c'est un des éléments principaux d'inspiration, d'augmentation de l'inspiration qui va attirer les gens. Et moi, mon conseil, ce serait vraiment de lier la gestion de marque et l'attractivité touristique à la production de qualité de contenu, de vidéos, pardon, de qualité et de contenu de qualité. Voilà un petit peu l'état des réflexions.
Eh bien, on note ce conseil. C'est vrai que la vidéo sur les réseaux est tout à fait prédominante. Quand elle est accompagnée de musique, parce qu'il n'y a pas d'émotion sans le son.
Très vrai.
très important. Mais oui, donner à voir, et en fait, on parle de désir. Quand Philippe Persson parle d'inspiration, on parle de susciter ce désir. Et on note qu'effectivement, chacun doit mettre en avant sa personnalité et peut-être éviter les campagnes qu'on a vues fleurir, ça et là, où on retrouve la même photo Shutterstock avec une petite famille en vélo au bord d'un canal, et c'est un coup venait dans la Sarthe, un coup venait dans le Berry, un coup venait dans le Jura, et c'est toujours la même photo. Donc peut-être se dire que affirmer, comme vous le disiez, ses fondamentaux, sa personnalité, et c'est ça qui plaît, et c'est ça qui fait aussi qu'on est sincère vis-à-vis de la clientèle touristique, et que du coup on joue franc jeu et qu'elle pourra avoir envie de s'installer, peut-être. Je vais demander à Bruno Faure et à Pierre Desprats de bien vouloir conclure cette table ronde, successivement Bruno, puis Pierre Desprats, président de la marque Auvergne.
Ouais, conclure, c'est difficile parce qu'on est devant un vaste champ. On est devant un vaste champ, effectivement, puisque l'idée de cette marque, hein, c'est, on a dit, c'est la fierté, c'est l'authenticité, mais c'est surtout dans le but de l'attractivité. Et donc, c'est là où, effectivement, où intervient l'ensemble du numérique et où il faut être, j'allais dire, inventif. Et comme je disais hier, hein, souvent on a utilisé le numérique pour faire du curatif, parce qu'on n'avait plus de service, parce qu'on n'échangeait plus, parce que, etc. Et donc on s'est mis à inventer des choses pour pallier. Et l'État en a souvent profité, d'ailleurs, pour fermer ses services publics et autres. On dit, je vous les mets à 20 km parce que vous avez de la visio. Non, ça ne change rien, puisqu'effectivement, ça a été dit, l'échange physique est important, même au niveau touristique, il y a toujours l'acte final. Aujourd'hui, il y a des exemples qui sont à développer à ce niveau-là. Et donc, effectivement, l'idée de la marque, c'est bien d'être dans l'offensif. Et maintenant qu'on a réussi, je vais dire, c'est pas gagné, mais on a vu que le nombre d'adhérents était important, et au niveau des collectivités, voilà, maintenant, comment va-t-on vendre, j'allais dire, l'Auvergne, que ce soit au niveau touristique, que ce soit au niveau économique, que ce soit en termes d'attractivité pour des habitants, venez chez nous. Et c'est là, effectivement, où le numérique doit être utilisé en termes de force de frappe, en termes d'outils. Et c'est là où, j'allais dire, collectivement, nous devons être innovants, mais surtout avec cette idée d'être offensif et non pas sur du défensif, et chose que nous allons faire avec l'ensemble des collègues. On est derrière les chefs d'entreprise. T'es dit, hein, les collectivités, nous sommes là pour créer, j'allais dire, l'environnement favorable, les infrastructures, etc. Et puis après, ben voilà, il y a tout un tas de créateurs d'innovation derrière que nous devons soutenir et surtout utiliser pour promouvoir l'Auvergne.
Merci Bruno Faure, Pierre Desprats.
Alors pour conclure, moi je vois en effet, je rebondis sur ce que vous avez dit, on voit la particularité de chacun des territoires de l'Auvergne, que ce soit l'Allier, que ce soit le Puy-de-Dôme, que ce soit la Haute-Loire, que ce soit le Cantal. Chaque département a ses particularités. Par contre, je crois qu'à un moment, il faut savoir faire ce que les Allemands savent très bien faire souvent, c'est-à-dire avoir un totem, une marque qui réunit ces quatre territoires. Et je crois que ce dont on peut espérer pour, en tout cas, ces deux prochaines années, c'est qu'on soit tous autour de ce totem marque Auvergne quand il faut, avec vos particularités, avec les particularités des différents territoires, et en tout cas, retenir peut-être cette phrase qu'on aime beaucoup citer parfois en Auvergne, c'est « seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ».
Merci, merci beaucoup Pierre Desprats, on vous applaudit. On applaudit l'ensemble des intervenants de cette table ronde.